France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les carnets passent la semaine dans le Maine-et-Loire, qu'on appelle aussi l'Anjou. Et aujourd'hui, nous voici à Gênes-Val-de-Loire, entre Angers et Saumur, pour admirer une œuvre d'art monumentale. L'hélice terrestre, c'est une sculpture géante installée dans un ancien village troglodyte, ou plutôt un village transformé en sculpture, tant elle est grande. On la doit à Jacques Warminski, plasticien français, qui était fasciné par l'habitat troglodyte creusé dans la pierre. Depuis la mort de cet artiste en 1996, c'est une association qui perpétue l'esprit de ce site fascinant. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Bonjour Daniel Cernot.
Bonjour Dorothée.
Bienvenue dans les carnets. Vous êtes l'une des bénévoles de cette association qui porte un nom étonnant. Elle s'appelle Arthrodite Espace. Une traduction s'impose, je crois.
Alors, c'est vrai que c'est un nom un peu compliqué, qui est très difficile à prononcer et à retenir. Nous, maintenant, on est habitués. En fait, c'est Jacques Warminski lui-même qui avait donné ce nom à l'association. Bon, dedans, on retrouve le mot art, on retrouve le mot troglodyte, on retrouve le mot espace. Et donc, il a fait une synthèse de ces trois mots avec ce titre, Arthrodite Espace.
C'est un barbarisme, donc.
Oui, tout à fait.
Ouais. Jacques Warminski qualifiait l'hélice terrestre d'archisculpture, et c'est vrai que les proportions sont assez spectaculaires. On se promène dans cette hélice, on s'y perd. Vous nous faites visiter, Daniel ?
Alors, deux espaces, un espace en plein air et un espace souterrain. En fait, Jacques Warminski a utilisé cette roche qui est superbe, qui est très très claire, presque blanche, quoi, qu'on appelle le tufo. Et il a creusé donc en souterrain des galeries. Et à l'extérieur, il a utilisé en fait un espace où il y avait un ancien troglodyte qui s'est effondré pour l'agrandir et en faire un amphithéâtre de béton. Alors pourquoi le béton ? Parce qu'on a en fait, il a voulu mettre en écho, je dirais, la matière naturelle qui s'appelle le tufo, qui est facile à travailler, avec le béton qui est un matériau complètement fabriqué par l'homme et qui est très dur. Donc à l'extérieur, dans cet amphithéâtre, on a des sculptures qui ont été moulées et en béton dans des formes convexes. Et à l'intérieur, dans la partie souterraine, on retrouve ces personnages qu'il a sculptés en concave dans la roche directement, dans le tufo. Donc, ce qui est intéressant dans cette hélice terrestre, c'est qu'en fait, les visiteurs sont complètement intégrés à la sculpture, se promènent dans la sculpture, déambulent dans la sculpture, tous les sens en éveil. Quand on est à l'intérieur, dans le souterrain, on circule dans des galeries et quand on lève la tête, quand on regarde à droite, à gauche, il y a des personnages qui flottent autour de nous, qui sont donc creusés dans la roche. Et puis à l'extérieur, eh bien, on est en plein air, donc les sensations sont complètement différentes de celles du souterrain. Et dans ce plein air, on a ces personnages aussi qui sont posés sur un amphithéâtre, qui sont assez importants, assez grands. Et on peut aussi s'asseoir sur ces personnages, déambuler au milieu de ces personnages qui sont là dans la partie extérieure. Et puis entre les deux, en fait, ce qui est assez original aussi, c'est qu'il y a une structure en bois qui fait un peu le lien entre la partie souterraine et la partie extérieure, l'élément végétal qui est là aussi. Et puis sous cet ensemble, toute cette sculpture a une forme hélicoïdale. On part vraiment du monde souterrain et on monte vers le ciel.
Voilà, la forme hélicoïdale a donné son nom à cette œuvre monumentale, l'hélice terrestre. Warminski a passé 5 ans à sculpter les murs, à creuser dans le tufo. Ce village troglodyte, est-ce qu'il était habité auparavant ?
Alors, c'est un village dont l'origine date du Moyen-Âge. On pense qu'au départ, les gens creusaient en fait pour se cacher. Et puis, petit à petit, ils ont utilisé cette roche pour y faire leur maison, leur habitation. Le village a été habité jusque dans la fin des années 50. Il y avait encore une famille qui vivait là. Mais à la fin du 19e siècle, il y avait plusieurs familles qui partageaient la cour, en fait, et chaque famille avait son troglodyte. Donc, on retrouve en fait actuellement dans les salles, on retrouve des foyers, donc les gens vivaient dans ces pièces-là. Et à côté, il y avait d'autres troglos qui servaient pour mettre le matériel, pour mettre les animaux, et chacun partageait la cour. Il y avait le puits également qui était commun à l'ensemble. Et en fait, à la fin des années 50, c'était quand même pas très confortable puisqu'il n'y avait pas l'eau courante, il n'y avait pas l'électricité. Ça, c'est devenu abandonné, complètement abandonné. En fait, la région dans laquelle se trouve cet espace est truffée d'habitations troglodytiques et il y a vraiment un regain, un renouveau. Il y a beaucoup de gens qui rachètent ces lieux et qui les réhabilitent et c'est très beau et ça, c'est un petit peu, il y a un effet de mode aussi également en ce moment. Alors que à la fin des années 60, c'était complètement abandonné, ça s'était transformé en décharge publique. Oui. Quasiment, quoi.
Vous le disiez, on peut toucher la pierre, hein. On s'immerge dans l'œuvre d'art, on entre dedans même. Finalement, c'est une œuvre très sensorielle. Vous qui avez connu l'artiste Daniel, est-ce que c'était un enjeu important pour lui que tous les sens soient convoqués pendant la visite ?
Alors, c'était vraiment son objectif, c'est-à-dire qu'il voulait que les visiteurs rentrent dans son œuvre et avec tous les sens en éveil. Donc, quand on est à l'intérieur, dans la partie souterraine, il y a une odeur particulière, il y fait froid, le sol est cabossé, on circule dans ces galeries sans trop savoir où on va, donc il y a vraiment des sensations un petit peu différentes, nouvelles. Et puis quand on est à l'extérieur, on sent l'air, on voit la lumière, on voit les végétaux, donc c'est encore d'autres sensations. Et c'est vrai que l'aspect sensuel était très important dans la démarche de Jacques Varmasky. Il voulait vraiment que les personnes soient complètement intégrées à sa sculpture, soient à l'intérieur, la vivre de l'intérieur, en fassent partie, tous les sens en éveil. Alors, il a créé également d'ailleurs deux espaces qui sont particuliers dans la partie souterraine. Il a fait une sphère qui est tellement parfaite que quand on est à l'intérieur de la sphère, il y a un écho absolument exceptionnel. Quand on parle, on n'entend pas sa voix sortant de la bouche, mais on entend sa voix qui résonne tout autour de soi. Et il a également fait un autre endroit qu'on appelle le trou noir. En fait, c'est une sorte de huit qu'il a creusé dans la roche et on est dans le noir absolu et on circule sans trop savoir où on va aller. Et là aussi, des sensations tout à fait particulières, bien sûr.
Ça ne suscite pas trop de crises d'angoisse ?
Non, on prévient les personnes, on leur dit que voilà, c'est une expérience à faire et ceux qui en ont envie le tentent le coup et sont souvent très contents. Oui. Il faut savoir aussi que c'est un lieu que les enfants adorent parce que c'est très ludique en fait. Il y a des cachettes partout, il y a des creux, il y a des bosses, il y a ce trou noir, il y a cette sphère et les enfants, pour eux, c'est un véritable terrain de jeu. Ils aiment beaucoup visiter cet endroit.
Alors, l'hélice terrestre, c'est aussi un lieu vivant. Hein. Un lieu vivant aujourd'hui, des résidences artistiques y sont organisées, des animations culturelles sont proposées l'été. Est-ce que là aussi, c'était une volonté de l'artiste avant sa mort ?
Tout à fait. Même pendant la période où Jacques créé son œuvre, hein, qui a duré 5 ans, ça a toujours été un lieu où des artistes venaient faire des spectacles, venaient s'exprimer. Et l'association a souhaité vraiment conserver ça fait partie d'ailleurs de nos objectifs, hein, en faire un lieu vivant, en fait, un lieu culturel. Et donc, chaque été, pendant la saison estivale, on propose des spectacles de musique, de théâtre. Cet été, on va recevoir, par exemple, l'école des arts et du cirque de Saint-Barthélemy d'Anjou, qui est juste à côté d'Angers. On aura des artistes circassiens qui vont venir nous proposer un spectacle, qui vont également animer des ateliers de découverte pour tout public. On a également des artistes qui viennent faire des résidences. On anime également des ateliers de sculpture pour les enfants, pour les adolescents. On veut faire en sorte que ce lieu demeure créatif, vivant, actif, joyeux, et ça fait partie de nos souhaits. En tout cas, on s'y attache énormément.
On ne l'a pas encore dit d'ailleurs, mais il n'est pas ouvert toute l'année, hein, ce lieu, et il ouvre très bientôt, le 20 avril,
alors,
c'est ça ?
On ouvre aux vacances de printemps. Cette année, dans notre région, les vacances démarrent le 20 avril, donc on ouvre le 20, et on est ouvert jusqu'aux vacances de Toussaint, c'est-à-dire jusque début novembre.
L'hélice terrestre, c'est donc en Anjou, lieu dit Lorbière à Gênes-Val-de-Loire, dans le Maine-et-Loire. Merci beaucoup Daniel Cernot.
Merci à vous.
Et bonne
à
journée.
Bientôt.
À bientôt.
Merci.
Restons dans le Maine-et-Loire, les Carnets passent toute la semaine. Voici quelques messages d'auditeurs et auditrices. Julien nous a écrit pour parler de l'entreprise qu'il a créée à Angers et qui s'appelle les Bocaux à Papa, une conserverie artisanale et engagée. C'est en devenant papa que nous avons pris conscience de l'importance de manger sainement pour le bien-être de nos enfants, écrit-il. Nous, c'est Pierre et Julien, les deux fondateurs de cette conserverie. Nous travaillons avec les maraîchers autour de nous, poursuit Julien, pour valoriser leur production et pour lutter contre le gaspillage. On leur propose de faire de la transformation en marque blanche. Ils viennent avec leurs fruits ou leurs légumes et ils repartent avec de bons bocaux à mettre à leur nom. Les bocaux à papa sont fabriqués dans un tiers-lieu culinaire de référence. C'est Bio L'Anjou qui est un modèle au niveau national pour ses actions dans le développement du circuit court et de l'économie sociale et solidaire. Alors, quelques exemples des recettes proposées dans ces fameux bocaux. Tartinade, betterave et lentilles, corail, riz au lait, au caramel, compote, pomme, géranium. Du local en bocal, donc. Les bocaux à papa, c'est à Angers et vous trouverez leurs liens sur notre site. Un courriel de Marie-Christine pour parler d'un centre de soins pour les hérissons qui a ouvert il y a un an tout juste, Noctis Hérissons. C'est à Cléré-sur-Layon, entre Cholet et Saumur. Association à but non lucratif et reconnue d'intérêt général, composée essentiellement de bénévoles qui font un super boulot, écrit cette auditrice. Les animaux blessés, souvent blessés par les tondeuses à gazon, sont recueillis, soignés et ensuite relâchés dans leur milieu naturel. L'association fonctionne grâce aux dons et aux adhésions. Le hérisson, rappelons-le, est une espèce protégée. Noctis Hérisson, c'est à Cléré-sur-Layon, dans le Maine-et-Loire. Et enfin, le message de Daniel pour signaler Goutte de Verre, entreprise portée par Aline Larvet, qui est jardinière paysagiste à Segré. Alors, Segré, c'est l'ancien nom. Plusieurs petites communes ont été regroupées. Et la commune s'appelle désormais Segré en Anjou bleu. Le bleu est une référence aux anciennes mines d'ardoise de cette partie de l'Anjou. Mais là, c'est le vert qui nous intéresse, donc pas le bleu. Goutte de Verre, explique Daniel, conçoit et réalise des jardins potagers dans les entreprises ou chez les particuliers. Le concept basé sur la permaculture permet de transformer de banales pelouses en des jardins nourriciers luxuriants, histoire de se diriger vers l'autonomie alimentaire et anticiper demain, écrit cet auditeur. Alors, je vois par ailleurs sur le site de Goutte de Verre que la jardinière Aline a choisi ce nom parce qu'elle travaille à verdir et à rendre comestible le milieu urbain par petites touches comme des petites gouttes dans un océan de béton. Goutte de Verre, c'est donc à Segré en Anjou bleu dans le Maine-et-Loire. Et là aussi, vous trouverez le lien qui va bien sur notre site internet.
France Inter, Carnet de campagne.
Merci pour vos messages, nombreux et enthousiastes. Les carnets, sachez-le, s'intéresseront bientôt à l'Alsace, le Bas-Rhin, puis le Haut-Rhin, avant de filer en Haute-Saône. Vous pouvez donc d'ores et déjà nous écrire si vous avez des gens géniaux ou des initiatives réjouissantes à signaler dans ces départements. Le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, autrement dit Strasbourg et ses environs, Colmar et ses environs, Vesoul et ses environs.